Quand on pense à l'ADN, on a souvent cette image d'un truc absolument immuable, tu vois?
Ouais, la double hélice, bien rigide, quoi.
Exactement, un truc ancré dans nos cellules qui va dicter la couleur de nos yeux, notre taille et surtout à qui on est biologiquement lié. C'est vraiment la certitude absolue sur laquelle on n'a absolument aucun contrôle.
Bah oui, c'est la biologie qui décide. D'ailleurs, le vieux dicton le dit bien, on choisit pas sa famille.
C'est clair.
Dans la quasi-totalité des cultures, cette lignée sanguine, c'est vraiment le paramètre le plus figé. C'est ce qui définit ton statut, tes alliances et en fait tout ton avenir.
Sauf que, et si on imaginait un instant qu'on puisse réécrire cet ADN?
Réécrire l'ADN? Genre en laboratoire?
Non, non, pas du tout de manière scientifique. Plutôt de manière purement sociale. Imagine qu'on puisse effacer complètement sa lignée d'origine et s'en greffer une toute nouvelle, de toute pièce, juste pour survivre à une crise majeure.
Ah, je vois où tu veux en venir.
Voilà. Aujourd'hui, on entame une exploration en profondeur vraiment fascinante, basée sur les travaux du docteur David de Silva. En fait, en analysant un texte antique, la première épître de Pierre, on découvre comment une communauté entière a utilisé ce concept de structure de parenté. Et pas juste comme une petite métaphore poétique sympa, hein ?
Non, plutôt comme une véritable technologie de survie, c'est ça ?
C'est exactement ça. Je suis fascinée par cette idée. Mais pour comprendre comment ils ont fait, faut vraiment qu'on pose le décor.
Ouais, le contexte historique, c'est vraiment la clé ici. En fait, l'action se déroule au premier siècle de notre ère, dans ce qui est aujourd'hui l'ouest de la Turquie.
D'accord.
Et on a ces individus, de tous les milieux, qui décident d'adopter une nouvelle foi. Mais en faisant ça, ils s'extraient brutalement de toute leur tradition ancestrale. Ils quittent leur guilde professionnelle, les rituels civiques de leur ville, tout.
Ce qui devait pas super bien passer à l'époque, j'imagine.
Bah, le contre-coup est immédiat et super violent, en fait. Ils se retrouvent d'un coup totalement marginalisés, insultés et littéralement rejetés par leurs propres voisins.
C'est un vrai cauchemar social. Mais ce qui est brillant, c'est la solution que l'auteur de ce texte leur propose.
Ouais, il leur dit pas de fuir, quoi.
C'est ça, il leur dit pas de s'enfuir dans le désert ou de se cacher. Il leur propose de redéfinir littéralement leur code génétique social. Mais avant de plonger là-dedans, il faut qu'on s'immerge dans la psychologie de l'époque. Parce que dans ce monde gréco-romain, la réputation, c'était pas juste un petit bonus pour se sentir bien.
Ah non, l'honneur et la honte, c'était littéralement une devise financière. C'était la monnaie d'échange indispensable pour toute interaction sociale.
C'est fou quand on y pense.
Ouais, si tu perdais ton honneur public, tu perdais ta capacité à faire des affaires au marché, tu pouvais plus marier tes enfants, ni même obtenir justice.
Donc c'était la mort sociale absolue.
Complètement. Or, ces premiers convertis, ils subissaient une vaste campagne d'humiliation de la part de leurs voisins païens. C'était des calomnies publiques, des insultes, des violences physiques. Le but, c'était vraiment d'utiliser cette pression pour rendre leur vie invivable et les forcer à abandonner cette foi, perçue comme antisociale.
Et c'est là que le texte introduit cette idée de seconde naissance. L'auteur parle d'une naissance issue d'une semence impérissable. En gros, ils entrent dans une toute nouvelle famille où Dieu lui-même devient le père.
Et le docteur de Silva montre bien comment l'auteur joue sur ce contraste.
Ouais, tout à fait.
D'un côté, il balaye l'héritage de naissance naturelle en le qualifiant de tradition futile et d'ignorance. Et de l'autre, il présente ce nouvel héritage qui lui promet une gloire inaltérable.
Il résonne énormément avec des concepts d'aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent. C'est très similaire au concept de la famille choisie, tu trouves pas ?
Ah oui, le parallèle est super pertinent. Les sociologues le voient tout le temps aujourd'hui. Quand la famille biologique devient toxique ou rejette quelqu'un, se créer un réseau d'amis qui devient une vraie famille, c'est vital pour la santé mentale.
C'est exactement ça. Sauf que dans l'Antiquité, c'était pas juste pour la santé mentale, c'était la survie pure et dure. Parce que ta valeur dépendait du patriarche de ta famille biologique, non ?
Voilà, le chef de famille garantissait ton statut. Donc en quittant ces traditions, ces gens coupaient les ponts avec ce patriarche terrestre. Ils devenaient des cibles mouvantes.
Mais alors... Comment ce simple changement mental, de se dire « bon, bah, j'ai une nouvelle famille spirituelle », comment ça pouvait vraiment agir comme un bouclier quand on te crache dessus en allant chercher de l'eau, quoi ?
Bah, c'est un recadrage cognitif massif. L'auteur leur dit « oui, vous avez perdu l'approbation d'un patriarche romain, c'est vrai. Mais maintenant, vous partagez l'honneur du créateur du cosmos. »
Ah oui, c'est un changement de juridiction totale.
C'est exactement ça. Le tribunal de l'opinion publique du village est mentalement remplacé par le tribunal divin. Donc la honte jetée par les voisins perd tout son mordant.
C'est une armure psychologique incroyable. Mais bon, se dire qu'on est l'enfant du créateur cosmique, ça implique aussi des règles de conduite dans cette nouvelle fratrie, j'imagine.
Forcément. Le texte cite d'ailleurs le Lévitique en disant « Soyez saints car je suis saint ». Faut imiter le caractère du parent.
Et c'est là qu'on arrive à ce fameux concept de la Philadelphie, l'amour fraternel.
Ouais, la Philadelphie, dans le monde antique, c'est très spécifique. Le docteur De Silva cite plus tard qu'un grand philosophe de l'époque, qui a beaucoup écrit là-dessus.
Il faut bien s'imaginer la norme de l'époque, hein. Si quelqu'un t'insulte sur la place publique, la société exige que tu te venges, c'est ça.
Absolument. Ne pas riposter, c'est de la faiblesse pure, c'est accepter la honte. La vengeance, c'est une obligation morale.
Mais du coup, entre frères et sœurs, ces règles changent.
Complètement. Plutarque explique que dans une fratrie, la règle d'or, c'est l'indulgence. L'amour est censé couvrir une multitude de péchés. Et l'auteur de l'Épître de Pierre prend ce concept et l'applique à toute la communauté.
Donc, pas de calomnie, pas de jalousie.
Voilà, il l'interdit formellement. Parce que dans l'Antiquité, la calomnie et la tromperie, c'est pas juste de vilains défauts, c'est des armes de destruction sociale pour éliminer des rivaux. Et une fratrie ne se fait pas concurrence, elle coopère face au reste du monde.
Alors, là, je dois t'avouer que je vais faire ma cynique de service.
Vas-y, je t'écoute.
Refuser la vengeance, s'aimer comme des frères, tout ça c'est de la très belle poésie sur le papier. Mais concrètement, le texte insiste à fond sur l'hospitalité. Comment ça pouvait marcher dans un monde romain super rude, sans aucune infrastructure moderne, d'accueillir un flux constant d'inconnus ?
C'est une vraie question.
L'hospitalité sans limite pour des milliers de voyageurs, ça ressemble plus à un suicide logistique qu'à une stratégie géniale, non?
Et pourtant, c'était le moteur littéral de leur survie. Nos sources citent Edwin Hatch, un spécialiste de l'Antiquité, et il dresse un portrait terrifiant du voyage à cette époque.
Ouais, on imagine souvent des belles routes pavées, super sécurisées.
C'était tout le contraire dès que la nuit tombait. Les infrastructures étaient désastreuses, les auberges romaines, c'était des coupes-gorges absolues, vol, prostitution, meurtre, un voyageur isolé risquait sa vie.
Oh waouh.
Donc, trouver un toit sûr, c'était vraiment vital.
Vital.
Et c'est là que cette parenté fictive déploie toute sa magie. Ce mouvement a explosé parce qu'un chrétien, qu'il soit à Corinthe, à Rome ou en Asie mineure, il débarquait et trouvait instantanément un abri chez des gens qu'il ne connaissait même pas.
C'est fou. Le Airbnb de l'Antiquité, en gros.
C'est ça. Des étrangers complets s'octroyaient les obligations de la famille de sang la plus proche. Sans ce réseau mondial d'hébergement d'urgence, le mouvement aurait été étouffé direct.
D'accord, je suis convaincu pour la solidarité sur les routes. Mais une fois la porte de la maison fermée, ça devait être une autre histoire. Surtout dans les foyers religieusement divisés.
Ah oui, les frictions étaient monumentales.
Ça nous amène à cette dynamique que je trouve géniale. Une sorte de cheval de Troie domestique, quoi.
Le conflit explosait sous le toit familial, c'est clair. Une bonne partie du texte s'adresse aux épouses chrétiennes mariées à des non-chrétiens. Et il faut se rappeler que le foyer romain, c'est l'autorité absolue du pater familias.
Le père de famille a droit de vie ou de mort, pratiquement.
Exactement. Aucune dissidence tolérée. Du coup, en apparence, le texte semble se plier à ça. Il utilise un vocabulaire traditionnel « femme, soyez soumise, douce, silencieuse ». Il donne même l'exemple de Sarah, la matriarche obéissante.
L'objectif officiel, c'est d'évangéliser le mari juste par l'exemple, sans rien dire.
Voilà, c'est la coquille du cheval de Troie. Ça rassure la société patriarcale.
Mais dès qu'on ouvre cheval, on voit que tout est piraté de l'intérieur. Il y a cette petite consigne glissée au milieu « ne craignez aucune intimidation ». Et ça, c'est énorme.
C'est une révolution absolue. Pour bien comprendre, reprenons Plutarque. La norme romaine, c'est que la première obligation d'une épouse, c'est d'honorer exclusivement les dieux de son mari.
Il y a un petit sanctuaire dans chaque maison, c'est ça, non?
Le lararium.
Exactement. La maison romaine, c'est pas laïque. Brûler de l'encens ou faire des offrandes, c'est quotidien. Donc, quand cette femme chrétienne refuse de faire ses rituels, elle vit pas juste une crise spirituelle dans son coin.
Ah non.
Aux yeux de la société, c'est de la haute trahison sociale.
Mais carrément! Elle humilie son mari devant tout le monde, les serviteurs, les invités. Elle s'oppose à l'autorité suprême du foyer.
C'est dingue.
Et l'auteur lui dit « En gros, sois la plus irréprochable des épouses selon leurs standards civiques, gère la maison à la perfection, tout ça, pour créer un contraste béant avec ton acte de résistance le plus grave. Ton allégeance à Dieu supplante totalement ton allégeance à ton mari. »
Et alors pour les maris chrétiens, c'est tout aussi subversif. Le texte leur dit de traiter leur femme avec honneur. Au début, on pourrait se dire « ouais, bon, c'est de la courtoisie classique de l'époque ».
Ouais, la fameuse magnanimité envers le vaisseau plus faible, comme il disait.
Voilà. Sauf que le motif donné pour cet honneur, c'est parce qu'elles sont cohéritières du don de la vie. Et là, ça change toute l'architecture du mariage.
Le docteur De Silva souligne bien cette nuance linguistique. La fragilité physique est mentionnée juste comme raison pour être un bon protecteur. Mais accorder de l'honneur, ça repose sur l'égalité spirituelle absolue.
Le terme cohéritière, ça importe le vocabulaire de la fratrie dans le couple.
Tout à fait. Un frère et une sœur héritent à parts égales. Donc le mariage romain, qui était une pyramide super raide avec l'homme tout en haut, il est silencieusement aplati pour devenir une vraie relation d'égalité devant Dieu.
Déjà que redéfinir le mariage, c'est énorme. Mais quand le texte s'attaque au dernier échelon de la société, les esclaves, on passe vraiment à un autre niveau. C'est peut-être la partie la plus transformatrice de cette analyse. L'auteur prend l'esclave et en fait la boussole morale de l'humanité entière.
Ouais, le passage s'adresse aux Ocaïtas, les esclaves domestiques, et il leur donne l'ordre de se soumettre même au maître dur ou injuste.
Faut qu'on s'arrête 2 secondes là-dessus. Parce que pour nous, aujourd'hui, entendre un texte qui dit aux esclaves de se soumettre, c'est viscéralement insupportable, quoi.
Je comprends tout à fait.
On a juste envie de jeter le texte, de dire que c'est de la propagande pour maintenir le système en place. C'est de la complicité d'oppression, non?
C'est la réaction éthique normale aujourd'hui. Et De Silva ne dit pas que c'est un manifeste d'émancipation moderne. Mais pour voir la subversion, il faut comprendre le droit romain de l'époque.
Vas-y.
Pour un Romain, un esclave, c'est un simple outil doué de parole. Il n'a aucune agence morale. La loi ne lui reconnaît aucune conscience. Le bien, c'est obéir au maître. Le mal, c'est désobéir.
Donc le maître dicte littéralement la réalité morale de l'esclave.
Exactement. Et là, le texte biblique vient fracasser ça. Il dit à l'esclave, agis selon ta conscience envers Dieu. D'un coup, il lui donne une agence morale totale. Le maître païen n'est plus l'arbitre du bien et du mal.
Ah, je vois la nuance. Si le maître lui dit de faire un sacrifice païen, l'esclave peut juger par lui-même que c'est mal et refuser. La soumission s'arrête là où commence la conscience.
C'est ça. Et la conséquence de ce refus, évidemment, c'est la souffrance injuste, parce que le maître va punir cette insubordination. Mais c'est là qu'est le retournement de génie. L'auteur dit que souffrir injustement pour sa conscience, sans répondre par la violence, ça reproduit exactement le modèle du Christ.
Ah, waouh! Donc l'esclave devient l'incarnation de la vertu suprême.
Oui, et ce modèle est donné en exemple à tous les chrétiens, même aux riches propriétaires et aux citoyens libres.
C'est le monde à l'envers, hein? Imagine le riche patriarche chrétien, dans l'assemblée, à qui on dit que le citoyen divin ultime, c'est pas le sénateur, mais l'esclave dans le coin de la pièce, parce que lui seul a le vrai courage moral. Ça a dû complètement dynamiter leur façon de se voir au quotidien.
C'est la création d'un univers moral parallèle en plein cœur de l'Empire romain, ni plus ni moins.
Ce qui nous pousse inévitablement à nous regarder dans un miroir. Hein. Quand on observe nos communautés modernes, on est souvent à des années-lumière de cet engagement viscéral.
C'est clair.
On dirait plus des réseaux de connaissances polis, tu vois, on boit un café, on sourit une heure et on retourne à notre vie ultra-individualiste. L'idéal d'une famille prête à tout, ça semble s'être complètement évaporé.
Le docteur De Silva n'hésite pas à souligner ce contraste. Il prend des exemples très concrets. Imagine une mère célibataire dans la communauté. Si on fonctionnait vraiment comme une vraie fratrie, on ne se contenterait pas de lui envoyer des petits mots d'encouragement sympas.
Non, on ferait un roulement pour garder ses enfants pendant qu'elle travaille, comme le feraient des grands-parents ou des frères biologiques.
Exactement. Pareil pour les conflits. Dans une famille de 100, si 2 personnes arrêtent de se parler, les autres ne regardent pas poliment ailleurs. Ils interviennent, ils forcent la discussion pour préserver la famille.
Mais le plus frappant, je trouve, c'est la gestion de la honte.
Ah oui.
Aujourd'hui, avec la culture numérique, dès qu'il y a un faux pas, c'est le pilori direct, on annule la personne, on l'isole pour pas que la disgrâce contamine le groupe.
La fameuse cancel culture.
Voilà. Alors que l'idéal de parenté antique, c'était tout l'inverse. Le but, c'était de couvrir la honte du fautif, de le protéger des regards extérieurs et de le restaurer discrètement, comme tu le ferais pour ton propre frère. Assumer la honte de l'autre, c'est devenu un concept presque extraterrestre pour nous.
Et pourtant, c'est cette solidarité à toute épreuve qui a forgé leur résilience face à l'Empire. Les documents historiques des 2e et 3e siècles montrent bien la stupéfaction des païens. Ils disaient toujours « Voyez comme ils s'aiment ».
C'est vraiment la phrase clé.
Ouais, cette acceptation inconditionnelle, c'était un champ de force. Ils avaient un écosystème tellement attractif que les persécutions n'ont fait qu'accélérer leur croissance.
Bon, prenons un instant pour résumer ce voyage incroyable. On a vu comment un groupe totalement marginalisé, menacé de destruction, a choisi la survie non pas par les armes, mais en redéfinissant complètement son identité.
Ouais, ils ont piraté le concept de famille, en gros.
C'est ça. Ils ont utilisé la coquille des structures romaines, le mariage et l'esclavage, pour injecter clandestinement une égalité spirituelle et une agence morale qui ont renversé toutes les valeurs de l'Antiquité. Et avec cette hospitalité radicale, ils ont tissé un réseau humain juste indestructible.
Le génie, c'est vraiment le passage de la théorie à la pratique. C'était pas juste un joli slogan, c'était des obligations sociales strictes. Et ça reste un cas d'étude majeur pour les historiens aujourd'hui.
Et du coup, ça laisse vraiment matière à réflexion pour nous aujourd'hui, pour tous ceux qui nous écoutent. Si traiter de parfaits inconnus comme des membres de sa famille de sang a été le moteur d'une des plus grandes transformations sociales de l'histoire, on peut se poser des questions sur notre monde moderne.
C'est clair.
Face aux innombrables clivages qui fragmentent nos sociétés actuelles, politiques, économiques, culturelles, qu'est-ce qui se passerait si on décidait de réactiver cette technologie sociale ? Quel mur dans nos quartiers ou nos pays pourrait s'effondrer instantanément si on décidait consciemment d'étendre notre ADN social pour y inclure ceux qu'on considère comme des étrangers, ou même comme nos adversaires ?
C'est vraiment le vertige quand on y pense.
Absolument. C'est sur cette pensée vertigineuse qu'on termine notre exploration d'aujourd'hui.